Ô Dieu notre Père, nous voulons te bénir pour toutes choses et te demander que par ta grâce, ce matin, nous puissions éprouver la réalité de ta présence. Car tu l'as dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu de, et c'est ta présence qui compte pour nous. Et la puissance de ton esprit qui peut purifier aussi toutes nos pensées et nous maintenir vraiment à toi-même dans ton sanctuaire et que ta parole puisse nous traverser et atteindre les consciences et les cœurs pour qu'il y ait du fruit de cette semaine de camp qui dure dans la vie de tous les jours en cette année 1998. Nous croyons que tu peux tout et que rien ne s'opposera à ton dessein, car nous n'avons pas voulu ce temps pour nous-mêmes, mais nous avons cru obéir à tes commandements en donnant cette possibilité à d'autres de se rassembler avec nous sous ton regard en Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, rafraîchis notre mémoire et garde-nous dans ta paix. Amen.
Amen.
Eh bien, mes amis, nous continuons notre thème qui avait été annoncé, comme vous le savez, « Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai au fur et à mesure que les journées passeraient ». Et le fond de nos études, comme vous le savez, c'est cette épître de Paul à Tite. Et je veux croire que maintenant, Tite n'est pas un inconnu pour vous, mais que vous savez quelque chose de ce qu'il était, de son caractère, de sa manière de travailler, de la confiance que lui témoignait Paul pour l'envoyer accomplir des missions où il ne pouvait pas être lui-même. Alors, ce matin, nous sommes au chapitre 3 de l'épître de Paul à Tite. Et nous allons lire jusqu'au verset 7. Et nous laisserons les versets 8 à 15 pour la dernière matinée demain. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà ce que nous donne une première lecture. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que dans ce que nous venons de lire, il est parlé de sept fois à plusieurs reprises. Sept éléments qui reviennent. Et le chiffre sept, c'est le chiffre de la plénitude. Alors, je dirais tout de suite que ce matin, nous arrivons à un deuxième sommet de cet épître de Paul à Tite. Le premier sommet, c'était lequel ? L'apparition de quoi ? De la grâce. Hein ? C'est le premier sommet qu'on trouve dans cet épître. Après nous avoir dit ce que Tite avait à faire dans l'île de Crète, au verset 11 du chapitre 2, il nous amène à ce qui s'est passé quand la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La venue du Seigneur. Quand il est venu une première fois pour accomplir l'œuvre de notre salut. Ça, c'est un sommet. Et puis, je dis qu'il y a un deuxième sommet, c'est dans ce chapitre 3, où nous lisons, au verset 4, que la bonté de notre Sauveur et son amour pour tous les hommes ont été manifestés. Il y a eu la grâce et puis la bonté qui ont été manifestées. Ce sont les sommets que nous trouvons dans cet épître. Et alors, hier, au verset 15 du chapitre 2, nous avons trouvé un résumé du ministère de Tite en Crète et comment Tite devait parler. Verset 15, hein, souvenez-vous de ce résumé. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Qu'est-ce qu'il devait annoncer ou de quoi devait-il parler ? Eh bien, des choses que nous avons trouvées dans le chapitre deuxième, au verset 15 dans la traduction d'Herbie, il est dit « annonce ces choses ». Là, il est dit « ainsi dois-tu parler ». Ben, quand on annonce ces choses, c'est qu'on est en train de parler, hein, annonce ces choses, mais vous savez quelles sont ces choses, nous les avons étudiées, et puis il ne faut pas seulement les annoncer que la grâce est vraiment apparue en Jésus-Christ, mais il faut exhorter. Et qu'est-ce que c'est l'exhortation ? Eh bien, exhortation, c'est une excitation, un encouragement. On excite les âmes et on les encourage à vivre selon ces choses, à vivre de cette grâce. Mais il est dit aussi, reprend. Il faut savoir reprendre. Et qu'est-ce que c'est que reprendre ? C'est corriger, c'est signaler une erreur. Et j'étais obligé de le faire ce matin, vous l'avez réalisé, n'est-ce pas ? Parce que pour notre cher Muriel, il y avait un certain découragement. Et il fallait que je le dise, et que je le dise de la même manière que Tite devait parler, puisqu'on se laisse enseigner, avec une pleine autorité. Et il me semblait que la meilleure autorité que je pouvais avoir, c'était de dire à ses filles, qui voulaient diriger tout, pour que Muriel fasse ce qu'elle voulait plutôt, eh bien, c'était de dire que moi j'étais soumis à Muriel, comprenez-vous ? Alors, comme ça, elles n'étaient pas trop blessées, puisque je n'ai rien fait, je ne fais rien, sans aller demander à Muriel si c'est l'heure, si c'est le moment, si c'est prêt, pour qu'elle soit bien à l'aise. Donc, vous voyez que l'Épître à Tite nous exhorte et nous parle aujourd'hui. Alors, la pleine autorité, eh bien, c'est d'avoir constaté, c'est d'avoir vu. Si on fait une petite répréhension à quelqu'un, ou si on lui dit de faire de cette manière-là plutôt que d'une autre, et puis que la personne s'en aille, est-ce que c'est juste quand on est venu pour travailler? Qu'on tourne le dos à celle qui vous reprend pour s'en aller? Non, c'est pas juste. Alors, il faut que les rendre conscients, ça ne se fait pas. En tout cas, dans un camp chrétien, ça ne se fait pas, parce qu'on a encore des principes. Et ça aussi, dans les maisons familiales chrétiennes, nous devons tenir bon. Alors, vous voyez, on a essayé de... Même, vous croyez que ça me plaisait de faire ça? Non, ça ne me plaisait pas. Mais est-ce qu'il fallait le faire? Fallait les aimer assez pour le leur montrer, parce que si personne ne leur dit, ça ne va pas. Que personne ne te méprise. On peut nous mépriser, eh bien, peu importe. Ce qui compte, c'est de savoir que le Seigneur veut qu'on fasse sa volonté. Alors, nous lisons maintenant au verset 4 que la grâce était apparue, donc nous exhortons, nous reprenons, et puis on arrive. Je dirais encore un mot sur ce que j'ai dit hier soir. Hein. Hier soir, j'ai voulu vous rappeler, par la vie de quelques jeunes hommes, vous puissiez avoir dans leur exemple un enseignement, puisque dans l'Épître à Tite, il n'était pas seulement parlé de vieillards, et on vous a cité quelques vieillards qui pouvaient aussi vous instruire, mais on a parlé de quelques jeunes hommes. Et alors, en parlant de Joseph, esclave en Égypte, je voulais souligner que dans le monde dans lequel vous êtes, comme aussi dans les circonstances de Joseph, il y a des tentations. Et Joseph, lui, qui était un jeune homme, il a connu les tentations de la chair. Hein, quand cette femme s'est présentée à lui et qu'elle a voulu l'inciter à profiter de sa situation, de coucher avec elle, eh bien, il a su, il n'a pas essayé de discuter, il lui a simplement dit, mais comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Vous voyez que il n'y avait pas encore la parole, il n'y avait pas encore les 10 commandements, n'est-ce pas? C'était avant les 10 commandements. Mais il avait cette loi naturelle qu'on ne prend pas la femme d'un autre, et surtout pas la femme de son patron, qui avait une entière confiance en lui. Alors, quand il voit qu'il ne peut pas s'en tirer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Et voyez-vous, il ne faut pas croire qu'on sera assez fort pour tenir le coup. Il vaut mieux fuir, fuyez la tentation. C'est ce que nous enseigne l'Écriture dans l'Épître à Timothée, la deuxième Épître. Fuis les convoitises de la jeunesse, puis alors poursuis la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Après Joseph, qui nous a enseigné que la tentation devait la fuir, on a parlé de Moïse. Moïse, qui était dans une situation assez extraordinaire, puisqu'il pouvait être appelé le fils de la fille du Pharaon. Là, c'était une des tentations qu'on a dans le monde, et qui s'appelle, d'après Jean, dans l'épître de Jean, au chapitre 2, l'orgueil de la vie. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie. Eh bien, Moïse a compris, non, je veux rester avec mon peuple, ce peuple qui est méprisé, ce peuple qui est persécuté, il reste avec ce peuple. Le peuple de sa mère, le peuple de son père, qui lui ont enseigné que le seul vrai Dieu, c'était le Dieu de qui ? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'il reste fidèle à cette instruction qu'il a reçue quand et par qui ? Par sa mère, n'est-ce pas ? Parce qu'on allaitait les enfants très longtemps de ce temps-là, et on dit que ça pouvait aller jusqu'à 5 ans, allaitement mixte, n'est-ce pas ? Alors, jusqu'à l'âge de 5 ans, il a pu avoir sa mère, sa nourrice, qui lui enseignait les vérités. Et n'hésitez pas de parler à vos enfants de la parole de Dieu en leur racontant ce que vous-même vous y avez lu. Vous ne pouvez pas leur lire la parole, mais vous l'avez lu pour vous, puis vous leur exposez ensuite la parole. Et ils retiendront ces choses. Et ça a influencé Moïse. Étant devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Et dans notre vie quotidienne, il y a des choses aussi auxquelles nous devons dire non, nous devons refuser. Et vous savez, Moïse, c'était un homme qui parlait avec Dieu comment ? Face à face, comme un homme parle à son ami. Alors, vous voyez, il y avait une intimité entre lui et Dieu. Alors, pour lui, être le fils de la fille du Pharaon, ça ne comptait pas. C'était rien. Eh bien, il faut estimer certaines choses comme étant rien, alors que le monde vous dit, mais c'est tout, tu as besoin de cela, tu auras un grand nom dans le monde. Je me souviens toujours d'une conversation que j'ai eue avec mon père quand j'étais petit. Et puis, on se promenait au bord d'un ruisseau, il était horloger, il avait une fabrique d'horlogerie, et puis, en nous promenant, je vous l'ai déjà dit cela, et on parlait, parce qu'on doit prendre des décisions au sujet de ce qu'on va faire, il me disait, j'aimerais mieux que tu sois ramoneur dans la vie, ça se dit aussi ici, ramoneur, c'est bien. Plutôt que tu aies un grand nom dans le monde puis que tu ne te trouves pas au ciel. N'est-ce pas ? Ben, c'est ces choses qui vous restent. Hein. Être petit, peut-être inconnu, personne ne parlera de nous, mais je voudrais te retrouver au ciel. Et si j'avais voulu faire la théologie, eh bien, je me serais égaré. Parce que on me disait à ce moment-là que en faisant nos études de théologie, c'était le doyen de la faculté de théologie de la ville où j'habitais, Neuchâtel, qui disait « Je suis obligé de vous dire que à la fin de vos études, il est très probable que vous aurez perdu la foi. » Alors vous faites des études de théologie pour perdre la foi, comprenez-vous ? Alors heureusement que j'avais un père qui mettait le bâton dans les roues. Mais c'était pourtant mon désir, parce qu'on aime avoir un titre, être connu. On veut toujours être connu. Reconnu par qui ? Par les hommes. Reconnu par le monde. Et qui est-ce qui est le prince de ce monde ? C'est Satan. Alors c'est reconnu par le diable. Alors ça me plaît d'être reconnu par le diable ? Jésus a été méprisé, il a été rejeté. Alors, vous voyez, l'enseignement des parents, ça nous reste. On ne comprend pas tout de suite. Mais, soyez fidèles à la parole, vous aimez vos enfants assez. Parce qu'ils savent vous le dire après vos parents. Ils disent, mais toi, tu étais plus âgé que moi, tu aurais pu me le dire. N'est-ce pas? Ils vous accuseront. C'est vous qui serez considéré comme fautif. Alors, veillons et demandons à Dieu de nous conduire dans sa grâce. Savoir refuser, parce que bien souvent, ça nous met dans une situation très grave. Et puis, ça influence aussi nos enfants. Regardez le choix de l'homme. Quand il a choisi pour lui ce qui lui paraissait le meilleur, il leva les yeux et il choisit pour lui la plaine de Sodome. Il y a amené qui là? Ses enfants. Et quand les enfants grandissent, qu'est-ce qu'ils veulent, deux fils? Ils veulent se marier, hein? Et si c'est parmi les païens, ils auront qui comme ça? Des païennes. Les pauvres, il a choisi et il a mis ses enfants dans une situation terrible. Et même il s'est mis lui-même dans une situation terrible parce que ses filles, quand elles ont vu qu'il n'y avait plus d'hommes, elles se sont dit, il n'y a plus que notre père comme homme, il faut qu'on couche avec lui pour qu'on ait des enfants. Et voilà, ça a été l'inceste. Vous voyez que les péchés se multiplient quand on déraille de la parole, les péchés se multiplient. L'inceste de Lot, c'est de sa faute. Et pourtant, il était juge à Sodome. Et puis, il n'était pas d'accord, il n'était pas content de ce qu'il voyait, puisqu'il a dit qu'il tourmentait son âme juste, n'est-ce pas? Dans son âme, c'était condamné ce que faisaient les gens à Sodome. L'homosexualité, il la condamnait, il ne la faisait pas à lui, mais il était juge là-dedans. Est-ce qu'il était témoin du Seigneur là-dedans? Non. Et sa femme, je me souviens toujours, c'est ici que ça s'est passé, et il y en a qui s'en souviennent, d'une petite fille qui était très intéressée par l'histoire de Lot, et quand on est arrivé à sa femme, qui traînait, qui attendait, l'ange a dû la prendre par la main pour la tirer dehors, et puis on a demandé aux enfants, mais qu'est-ce qu'elle attendait? Elle attendait un trailer. Elle avait 6 ans, la petite. Qu'est-ce que c'était un trailer? C'était le remords, parce qu'elle nous l'a amené des choses. C'est drôle, hein? Les enfants ont bien compris. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'en serez pas dans le royaume de Dieu. Eh bien, souvenons-nous de cela. Ils comprennent. Alors, il n'a pas su refuser la convoitise de ses yeux. Il a vu, il a suivi ses yeux. Ça, c'est la convoitise des yeux. Et ensuite, Daniel. J'ai cité Daniel. Et lui, j'aime beaucoup cela, parce que vous voyez où il était. Il avait dû quitter, enfin on l'avait emmené, on l'avait déporté, c'était un jeune homme déporté, mais qui était de race royale, qui avait eu une bonne éducation, mais on l'amène à Babylone. Et alors là, eh bien, il est dit, il a arrêté dans son cœur qu'il ne se souillerait pas avec les mets délicats du roi. Eh bien, on est dans un monde où il y a toutes les souillures possibles. Et si nous n'arrêtons pas dans notre cœur que nous aurons une attitude autre que le monde, eh bien, nous sommes corrompus. Alors, c'est pour cela que je vous ai parlé encore de Daniel. Et ce qui caractérisait Daniel, on relisait ces chapitres avec ma femme dernièrement, on était frappés, on le jalousait à cause de la position qu'il avait, parce qu'il réussissait en tout, mais pourquoi? Parce qu'il restait fidèle à la parole. Et ses ennemis admettaient qu'on ne pouvait pas le prendre en rien parce qu'il était fidèle. Qu'est-ce qui disait que Daniel était fidèle? C'était ses ennemis. Et qu'on ne pourrait le prendre que sur une question spirituelle. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé l'histoire de la prière faite au roi. Et que Daniel, qui n'a pas changé ses habitudes, même que Darius avait décrété que celui qui ne se prosternerait pas, qui ne le prierait pas, eh bien serait jeté dans la fosse aux lions, il n'a rien changé. Il avait arrêté dans son cœur qu'il ne se souviendrait pas. Et puis, pourquoi est-ce qu'il regardait du côté de Jérusalem quand il ouvrait sa fenêtre?
Hein? Pour prier.
Pour prier, oui, mais sur quoi est-ce qu'il se basait? Non, c'était... au temps de Salomon, quand Salomon a fait la dédicace du temple, hein, il a dit que quand Israël serait dispersé parmi les nations, ceux qui prieraient en se tournant du côté de Jérusalem seraient exaucés et que Dieu pardonnerait. Donc vous voyez, il était instruit dans la parole. Et ce qu'il a fait, il l'a fait à cause de la parole. Voyez, dans le chapitre, dans le livre des rois. Pardon ?
Un roi
8. Un roi 8, oui, je suis là. Un roi 8. Verset 22. Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. » Or, on lui demandait de prier le roi Darius. « Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que lui avait dit et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta main. » Oui, David avait à cœur de bâtir une maison, mais Dieu lui a dit que ce serait son fils qui le ferait. « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. » Vous voyez, Salomon, au début de sa vie, il croyait que tout ce que son père avait écrit, eh bien, serait accompli. « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que ses fils voient et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. » Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que tu as dite à ton serviteur, mon père David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication, pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Elle était où, cette maison? À Jérusalem. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, faite en ce lieu. Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui écouteras en ce lieu où tu sièges dans les cieux. Tu écouteras et tu pardonneras. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, si ce serment a lieu devant ton autel, dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, et tu agiras, et tu jugeras tes serviteurs pour condamner le coupable et faire retomber sa conduite sur sa tête pour absoudre le juste et le traiter selon ta justice. Quand ton peuple Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, tu pardonneras le péché de ton peuple Israël et tu les feras revenir dans le territoire que tu as donné à leur père. Et puis vous pouvez continuer toute cette lecture et vous verrez qu'il est dit que quand on se tournait du côté de Jérusalem, eh bien le Seigneur exaucerait. Eh bien, Daniel a cru. Et vous connaissez son histoire. Alors, quand on nous dit qu'on est dans un monde difficile, souvenez-vous que Daniel était aussi dans un monde difficile, mais il a su rester fidèle, parce que la parole était avec lui. Et puis, je vous ai parlé ensuite d'un quatrième, Josué, et qui nous montre que c'est par la lecture quotidienne de la parole, s'il y a assiduité, eh bien, le Seigneur répond, et c'est le secret de la réussite qui nous est donnée. Maintenant, on arrive à ce chapitre 3, et je vous signale les exhortations qui sont transmises à Tite. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Voilà comment on peut résumer les premiers versets. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités. Donc, la première des choses qu'il doit rappeler, c'est la soumission. Au gouvernement humain, où trouvez-vous encore cette affirmation qu'il faut être soumis au gouvernement humain? Dans Romains, au chapitre 13, hein, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et même Jésus devant Pilate, qu'est-ce qu'il a dit à Pilate? Quand Pilate lui dit, est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer et le pouvoir de te condamner. Et qu'est-ce que lui répond Jésus? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'était donné de Dieu. Alors il s'est soumis même à l'autorité d'un païen, parce que Jésus, le Fils de Dieu, reconnaissait que ce gouvernement avait été confié à Pilate par son père. Donc, la soumission aux autorités, c'est ce que Jésus a fait lui-même. Alors, soumission aux autorités. La soumission, c'est quelque chose d'un peu passif, n'est-ce pas? Et puis, ensuite, quelle est la deuxième chose qui est signalée? Il ne faut pas seulement être soumis aux autorités, mais obéir, n'est-ce pas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La deuxième chose qui est signalée, c'est l'obéissance. Soumission aux autorités, maintenant obéissance. Et puis, l'obéissance, alors c'est quelque chose d'actif. Après l'obéissance, être prêt à toute bonne œuvre. C'est pas parce qu'on fait partie du ciel qu'on n'a pas à accomplir le travail sur la terre. Nous devons toujours être prêts à toute bonne œuvre. C'est la troisième chose. Si vous êtes sauvé par la foi, cela vous conduit à faire des bonnes œuvres. Je dirais ici, les œuvres sans la foi, ce sont des œuvres mortes. Mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Comprenez-vous ? Il y a l'équilibre. Hein. Les œuvres sans la foi, c'est mort. La foi sans les œuvres, c'est mort. Alors, la troisième chose, donc, être prêt à toute bonne œuvre. Être prêt. Et vous savez, on a peut-être une occupation, puis tout à coup, le Seigneur nous demande quelque chose d'urgent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, Seigneur, je suis occupé. Non. Être prêt à toute bonne œuvre. Le Seigneur a tous les droits sur nous. Et puis maintenant, de ne médire de personne. Dans ma version ici, n'injuriez personne. Médire, qu'est-ce que c'est la médisance ? C'est dire quelque chose de quelqu'un en son absence. C'est ça la médisance. Hein. On parle de quelqu'un, on le débine, il n'est pas là pour se défendre. Hein. C'est médire. Eh bien, voilà quelque chose qui doit aussi nous marquer. Ne médire ou n'injurier personne. Puis après, d'être paisible. Dans ma version, l'autre version que j'ai ici, n'être pas querelleur. Il y a des gens qui aiment la querelle, hein. Mais le croyant, il ne veut pas être querelleur. Pourquoi ? Parce que les querelles, elles sont où ? Dans quelles œuvres ? Les œuvres de la chair. Vous trouvez ça dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Hein. Les œuvres de la chair, et puis il y en a plusieurs qui sont mentionnées, et dans ces œuvres de la chair, il y a les querelles. Donc, ne pas être querelleur, être paisible. Et puis, conciliant, dit la version révisée, dans la version la plus littérale, eh bien, il est dit, le mot qui est employé, au lieu de conciliant, comment ? Modéré. La modération. D'être modéré, c'est le sixième point. Et le septième, plein de douceur envers tous les hommes. Ça vous fait penser à qui ? Qu'est-ce qui était doux et humble de cœur ? C'était Jésus. Alors, vous voyez, vous portez les caractères de Jésus. Dans ces sept choses, vous avez la vie de Jésus, qui a été soumis aux autorités, qui a payé ses impôts, qui a obéi, l'obéissance qui est allée jusqu'à la mort, qui était prêt à toute bonne œuvre, qui n'injuriait personne, mais au contraire, on pourrait penser que est-ce qu'il avait injurié la femme cananéenne qui criait après lui pour qu'il guérisse sa fille ? Il ne disait rien, et puis la femme disait « Aie pitié de moi, Seigneur, ma fille est tourmentée par un démon, etc. » Et puis, comme elle criait derrière les disciples sont venus vers le Seigneur et ont dit « Rends-moi cette femme, elle crie après nous, c'est une gêneuse. Hein? » Et voilà ce que les disciples faisaient. Renvoie cette femme, comme ils avaient dit aux parents qui venaient apporter les enfants, de ne pas ennuyer le Seigneur. Et le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et comme vous le lisez dans un évangile, il a dit qu'il était irrité. On trouve rarement ce mot. Jésus a été irrité contre ses disciples. Il eut l'irritation contre ses disciples. Et puis maintenant, ses disciples lui disent, renvoie cette femme. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Comment est-ce qu'elle a dû prendre cette parole de Jésus? Parce que les Juifs disaient que ceux qui n'étaient pas Juifs, c'était des chiens. Il a employé le langage du monde, hein, le langage des Juifs. Il ne convient pas de prendre le pain des enfants, les Juifs se disaient des enfants de Dieu, pour le jeter aux chiens, pour le jeter aux païens. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle répond? Oui, Seigneur! Moi, je trouve que c'est admirable. Hein. Elle accepte, puis elle dit même les petits chiens, et pas seulement un chien, un gros chien, mais même les petits chiens, ils mangent les miettes de la table de leur maître. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Elle n'a pas été choquée. Elle a admis, c'est vrai, mais même les petits chiens, ils mangent les miettes de la table. Eh bien, voilà notre Seigneur. Il n'injuriait personne. Alors, quand il a entendu cette femme dire ça, il lui dit, ô femme, ta foi est grande, hein, qu'il se soit fait selon ta foi. Et la fille était guérie. Quand elle est rentrée chez elle, sa fille était guérie. Que c'est beau la parole. C'est vraiment merveilleux. Mais c'est la vie de Jésus qui manifestait toutes ces vérités. C'est cette chose que vous trouvez ici, dans ces versets, eh bien, manifeste ce qu'était la vie de Jésus. N'injuriez personne, ne pas être querelleur, d'être modéré en toutes choses, dans le manger, comme on le disait ce matin, et j'ai appris que certains avaient mangé d'une façon qui ne se fait pas. Alors c'est pas très étonnant qu'on ait ensuite, je dis pas à tous, parce qu'il y a cette maladie, mais elle n'est pas la maladie du camp. Croyez-le bien, il y en a partout, on a encore vu des nouvelles. Alors, il n'y a pas une maladie dans le camp. Il y a des malades, mais qui pourraient être malades ailleurs. Modéré, et puis montrant toute douceur envers tous les hommes, ça c'était la vie de Jésus. Il était doux et homme de cœur. Et vous savez, moi, les gens durs, ça me fait peur. Des gens qui sont durs, ça me fait toujours peur. Et je l'ai dit et je le redis, ne détruisez jamais le caractère du Christ dans votre vie. Il était doux et humble de cœur. Et dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, il est dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » De tous les hommes. Le salut est venu pour tous les hommes. Alors vous voyez que nous aussi, nous devons avoir envers tous les hommes cette attitude. Ça, c'est vraiment le caractère complet du chrétien, les versets 1 et 2. Maintenant, depuis le verset 3, là, il y a quelque chose aussi de très intéressant, et vous verrez que vous avez aussi sept caractères, sept choses, depuis le verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois. Comment est-ce qu'on était autrefois? Il faut se souvenir de ce que nous étions. Pendant combien d'années avez-vous transgressé les lois du Seigneur autrefois? Il y en a qui les transgressent aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne vous rappelle pas que autrefois, quand vous n'aviez pas un contact vrai avec le Seigneur, vous avez aussi transgressé ces lois? Alors, ce souvenir de ce qu'on a été autrefois nous donne de l'humilité et nous empêche de juger durement les autres. C'est une chose dont nous devons nous souvenir. Et vous voyez comme la parole nous pénètre. Hein? Car nous aussi, nous étions autrefois. Alors, qu'est-ce que nous étions autrefois? Il y a 7 caractères. Qu'est-ce que nous étions?
Insensé.
Et qu'est-ce que c'est qu'être insensé? J'ai fait quelquefois des réunions sur les insensés. Hein. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. On n'était pas préoccupé par Dieu, on ne croyait pas même en l'existence de Dieu. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors, on est insensé quand on nie l'existence de Dieu, parce que c'est tout à fait raisonnable de croire qu'il y a un Dieu. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais dans Jérémie 4, il est dit que celui qui prétend connaître la vérité, qui se réclamait d'être juif, et qui ne vivait pas les commandements du Seigneur, il était aussi un insensé. Connaître sans pratiquer. Donc, nier l'existence de Dieu, c'est être un insensé. Connaître sans mettre en pratique, c'est être insensé. Et puis, faire des projets pour demain, quand on ne sait pas ce qui arrivera demain, c'est encore être insensé. Chapitre 12 de Luc. Et puis, bâtir sa maison sur le sable, c'est aussi être insensé. Alors, vous voyez, nous étions insensés. Et ça m'a bien frappé quand j'ai été de nouveau dans le Saguenay, de voir cette maison dont le propriétaire, n'est-ce pas, a dit que si elle existait encore, c'est parce qu'il s'était souvenu qu'à l'église, donc à l'église romaine, il avait entendu cette parole que si on bâtissait sur le sable, la maison risquait de s'écrouler par un temps mauvais. Eh bien, il l'avait bâti sur le roc, alors que d'autres l'avaient bâti sur le sable et tout était loin, tandis que cette maison était là. Ils ont en fer, ou je crois qu'ils ont déjà fait à peu près un musée, hein. La maison reste, elle est bâtie sur le roc. Donc vous voyez, c'est par une parole de Dieu qu'il avait reçue dans son cœur et qu'il n'a pas voulu bâtir sa maison sur le sable, même si tout le monde le faisait. Eh bien, que la valeur de la parole vous soit donnée. Donc, nous aussi, nous étions autrefois insensés. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on était? Désobéissant. On ne suivait pas ce que nous connaissions. On avait la connaissance de la parole sur des points, et puis on faisait autrement. Et puis, après la désobéissance, qu'est-ce qu'on était?
Égaré.
Égaré. Chacun suivait son propre chemin. Égaré. Ésaïe 53. Et puis, quatrièmement, qu'est-ce qui nous caractérisait? Asservi à toute espèce de désir et de passion. Il y a la cigarette, par exemple, puis il y a bien d'autres choses hein, qui nous asservissent. Bien, voilà ce que nous étions, asservis à toute espèce de désir et de passion. Alors, pour qu'on soit délivré de cela, eh bien, il faut demander la grâce au Seigneur. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Vivant, ça c'est la cinquième chose, comment est-ce qu'on vivait? Dans la méchanceté et dans l'envie. Et dans cette traduction-ci, vivons dans la malice. Hein. La malice, c'est la méchanceté intérieure et dans l'envie. On envie toujours ce que les autres ont. Mais pourquoi est-ce que vous ne seriez pas reconnaissant de ce que vous avez, vous? Mais autrefois, on enviait toujours. Et puis alors, on était quoi encore? Haïssable. Haïssable. où ici il est mis odieux, hein, odieux, haïssable. Notre attitude n'attirait personne. Puis, septièmement, on se haïssait les uns les autres. On n'aimait pas. Alors comment pouvez-vous accomplir le deuxième commandement, qui est la réalisation pratique du premier, si on n'aime pas, si on se hait les uns les autres, alors que l'Écriture nous exhorte à nous aimer les uns les autres? Voilà ce que nous étions autrefois. Donc à la vie avant notre conversion, et qui est manifestée par sept caractères. Puis, à partir du verset 4, il y a la transformation. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, quand ça nous est arrivé que le Seigneur s'est révélé à nous dans sa grâce et dans sa bonté, ce Dieu qui est appelé le Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Alors, qu'est-ce que nous trouvons là, dans ces versets? La bonté de Dieu, notre Sauveur. Ensuite, son amour pour tous les hommes. Et c'est tellement vrai qu'une fois converti, c'est pas depuis notre conversion que Dieu s'est occupé de nous. Mais tout à coup, on réalise qu'avant que nous soyons convertis, quand nous étions encore dans le monde, quand nous vivions encore dans le péché, Dieu avait pourtant de l'amour pour nous. Et on constate qu'il ne s'est pas occupé de nous que depuis notre conversion, mais il s'occupait de nous avant, n'est-ce pas? Et on apprend qu'il nous avait préconnus dès le sein maternel. Et c'est tellement beau de penser à cela. Mais alors, il y a donc un changement complet. Et vous avez alors ce qui caractérise le changement depuis le verset 4. Quand la bonté de Dieu notre Sauveur. Vous voyez qu'il est question dans tous les chapitres d'un Dieu Sauveur. Dans le chapitre 1er, vous aviez déjà au verset 3 du chapitre 1er. Il a manifesté sa parole en son temps, donc quand Jésus a apparu, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Et puis un peu plus loin, et du Père et du Christ, Jésus, notre Sauveur. Là, il est parlé deux fois du Dieu Sauveur, du Christ Sauveur. Et puis, au chapitre 2, au verset 10, où nous sommes exhortés à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, comme l'a fait Daniel, hein, afin de faire honorer en tout la doctrine du Dieu notre Sauveur. Et on peut dire vraiment que Daniel, par son attitude à Babylone, a fait honorer la doctrine du Dieu Sauveur. Car le roi, quand il a vu que Daniel était délivré, eh bien, il a demandé par un décret tous les citoyens reconnaissent le Dieu de Daniel comme le vrai Dieu, le Dieu Sauveur. Il avait sauvé Daniel. Et comme je l'avais dit ce matin, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e, eh bien, la gueule des lions fermée est attribuée à la foi de Daniel. C'est lui qui a fermé la gueule des lions, par la foi. Et concernant les trois jeunes Hébreux, c'est aussi merveilleux, il a dit que c'est eux qui ont éteint le feu. Hein. C'est formidable, c'est la foi qui est mise en avant. Et si vous lisez le discours des jeunes Hébreux avec celui qui avait le pouvoir de les jeter dans le feu, c'est absolument remarquable. Ils sont là accusés de ne pas s'être prosternés devant la statue. On les amène devant le roi, et puis il y a une discussion entre le roi et eux. Nebuchadnezzar est irrité, au verset 13, hein, et furieux, il donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez, puis il nomme tous les noms des instruments de musique qu'il a, eh bien, il dit, si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous voyez, là il a une occasion, ils ont une occasion formidable. Et Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous voyez pas que c'est magnifique? C'est cela que l'Esprit Saint nous donne. Nous n'avons pas besoin. Quand il dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer? Il va le voir. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On croit que nous devons toujours répondre avec des arguments, mais ce n'est pas vrai. Taisons-nous. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, mais acceptons d'y passer par cette épreuve. Et si nous y passons et que nous sommes dans la main de Dieu, eh bien, ce sera visible. Verset 17. Si cela doit être, hein, verset 17, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Il peut nous délivrer, et puis, ils sentent que leur foi augmente, ils disent, il nous délivrera de la fournaise ardente de ta main au roi, et de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea. C'est aussi une étude que vous pouvez faire, l'expression des visages. Les visages qui changent, le visage de Laban qui change, qui n'est plus le même au sujet de Joseph. Il y a beaucoup de visages qui ont changé. Et c'est une étude qui nous parle beaucoup. Tandis que le visage d'Étienne, quand il regardait le Seigneur, il rayonnait comme celui d'un ange. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Alors, on peut dire, on n'aurait peut-être pas dû témoigner si fort. Tout ce que ça fait chauffer la fournaise 7 fois plus. C'est toujours 7 fois. Puis il commanda à quelques-uns des hommes les plus vigoureux des soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux. Ils n'allaient pas les perdre, alors on pouvait les mettre dans le feu. Et de leurs vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi, qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua qui? Les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils devaient devenir des hot dogs. Vous en avez mangé hier soir. Vous rendez-vous compte? Liés, jetés dans la fournaise ardente. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « C'était certainement mon roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans liens. » Et voyez-vous, ça c'est merveilleux quand vous le croyez. Les épreuves, tout ce qu'elles peuvent produire, c'est de nous détacher des choses, de détacher nos liens. On est lié à ceci, on est lié à cela. Et quand on passe par l'épreuve, le Seigneur permet que ces liens soient brûlés. Il n'y avait que les liens qui ont été brûlés, mais eux n'ont pas été brûlés. Et même, comme on le voit, l'odeur du feu n'avait pas passé sur leurs vêtements. Eh bien, et ils marchent au milieu du feu et n'ont pas de mal. Et l'aspect du quatrième, c'est ça qui est beau, ressemble à celui d'un fils des dieux. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prit la parole et dit « Sadrach, Mesach, Abednego, serviteur de qui ? Du Dieu très haut, sortez, venez. Hein. » Voilà la délivrance. Et Sadrach, Mesach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et ils virent que le feu, ceux qui les ont délivrés, n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ce qui n'est pas le cas pour le fumeur. Hein. Parce que même quand on ne fume pas, mais qu'on est avec des fumeurs, quand on revient à la maison, on nous dit, on dirait que tu as fumé. On n'a pas fumé, mais on a été dans un milieu où il y avait des fumeurs. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Sadrach, de Mesach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Alors tout est là, est-ce que nous avons confiance en le Seigneur ? Oh, je demande que vraiment, dans ce camp, vous fassiez un pacte avec le Seigneur, que vous lui fassiez confiance. Il y en a trois qui, ce soir, ont voulu manifester et donner à connaître qu'ils avaient confiance dans le Seigneur et qu'ils voulaient vivre pour lui. Eh bien, pensez à tout cela. On revient maintenant, après ce témoignage, à notre épître à Tite. On en était et il nous sauva, hein, et a donc la bonté de Dieu, notre sauveur, son amour. Il nous sauva sa profonde, il nous sauva où ? Ben, c'est à la croix, hein. Il nous a sauvés, verset 5, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, on avait transgressé la loi, nous étions coupables, mais en vertu de sa propre miséricorde. C'est pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais c'est par sa propre miséricorde, c'est le quatrième point. Et puis, par le lavage de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, le lavage de la régénération, c'est la conversion. La parole est toujours comparée comme une eau qui nous lave, l'eau qui purifie. Le sang de Christ a expié nos fautes, c'est sa vie donnée. Mais l'action de la parole, elle nous lave. Le lavage d'eau par la parole. Le lavage d'eau de la régénération. Et puis, sixièmement, le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance, être né d'eau et d'esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit est... Ce Saint-Esprit, comment est-il répandu sur nous ? Petitement, il a répandu sur nous, il l'a répandu sur nous avec abondance. Alors quand vous entendez des gens qui demandent « Donne-nous davantage de Saint-Esprit », qu'est-ce qu'ils font du Saint-Esprit ? Un liquide ? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Elle est là où elle n'y est pas. Alors il n'est pas question d'avoir davantage du Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut, c'est de donner la place au Saint-Esprit dans notre vie. C'est là ce que nous devons comprendre. Soyez remplis de l'Esprit, demandez à la déménageuse de venir enlever tout ce qui empêche le Saint-Esprit d'occuper toute la place, tous les compartiments de votre vie. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors il n'est pas question de demander « je voudrais davantage de Saint-Esprit » pour que j'ai une plus grande influence. Laissez le Saint-Esprit, vous l'avez le Saint-Esprit, puisque vous êtes régénéré, mais donnez-lui la place. Allez sur le siège à côté, mais donnez-lui la conduite de votre véhicule. Il va vous conduire. Le Saint-Esprit, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Alors, si vous l'avez, ce n'est pas une quantité médiocre, car il est dit que Dieu ne donne pas son esprit par mesure, vous connaissez ce verset. C'est toujours les versets de la parole qui forment nos pensées. Il ne donne pas son esprit par mesure. Chapitre 3 de l'évangile de Jean. C'est une plénitude. Et vous voyez que c'est la plénitude là. Afin que justifiés par la grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle. Alors ça, c'est la septième chose. Héritier de la vie éternelle. Parce que nous sommes sauvés en espérance. Et qu'est-ce que nous attendons ? Eh bien, nous attendons la réalisation complète de l'œuvre de Christ pour nous, qui nous donnera l'espérance. Nous avons la vie éternelle déjà, mais les effets de cette vie éternelle, nous ne les connaîtrons que quand Jésus viendra. Hein? Mais nous avons déjà cette puissance. Nous allons nous arrêter ici, et puis si Dieu permet que nous vivions encore demain, nous commencerons par le verset 8, cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru, littéralement, non pas qui ont cru en Dieu, qui ont cru en son existence, mais qui ont cru Dieu. Littéralement, c'est qui ont cru Dieu, qui ont cru ce que Dieu disait. Et voyez-vous, c'est là la grande différence. Dire que vous croyez en Dieu, le diable aussi y croit. Alors ça ne change rien. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nous devons croire en Dieu. Eh bien, repassez dans vos cœurs tout l'enseignement que nous avons trouvé ici. Il y a 3 fois 7 fois ici, dans ce que nous avons vu. Les 7 fois.